L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui vous fait entendre le Finistère, ou plus exactement, qui vous fait entendre les gens qui composent le Finistère. Aujourd'hui, une association présente dans notre département depuis 2006 et malheureusement, elle risque d'être encore là longtemps. Alors, je dis malheureusement car si elle existe, c'est pour traiter un problème qui vous a peut-être concerné un jour, le surendettement. Il n'est pas encore question de surendettement des États. Dans une société qui est très orientée vers la consommation, mais qui a aussi été récemment touchée par l'inflation, des prix qui augmentent, notamment celui de l'énergie, le logement aussi, et la spirale de l'endettement peut rapidement conduire au trop-plein. Alors bien sûr, il existe des solutions institutionnelles et légales pour faire face à un dossier de surendettement qui sera traité par la Banque de France, mais les associations sont indispensables aussi. Et une en particulier qui a fait du surendettement sa spécialité. Marie-Annick Lepage est responsable du secteur Finistère Sud de Crésus Bretagne. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que veut dire Crésus ? Bon, c'est une allusion, riche comme Crésus, mais en fait, ça veut dire quelque chose.
Oui, alors c'est vrai que le terme est un peu ambigu, parce que nous, on est une association spécialisée dans le surendettement. Donc, Crésus, ça signifie Chambre régionale de surendettement social de Bretagne. Donc, en fait, on est une association régionale, mais rattachée à une fédération nationale, qui est Crésus, la fondation Crésus, qui a été créée en 1992, qui est une association reconnue d'utilité publique. Et essentiellement, donc, le but, c'est d'aider les personnes en difficulté financière, budgétaire.
Alors, je disais que c'était dans le Finistère depuis 2006. C'est votre partie sud ou nord, ou les deux en même temps
Alors, notre siège social, Crésus Bretagne, donc, est une entité indépendante de la fédération. On est 85 bénévoles. 25 permanents sur toute la Bretagne. Et le siège de l'association, c'est à Brest-Kerangot. Donc, c'est là que l'association Crésus Bretagne est née. Notre siège social donc, est situé à Brest. Le Finistère est divisé en deux régions, le Finistère Nord et le Finistère Sud. Donc, le Finistère Sud, nous avons comme permanence régulière Châteaulin, Quimper, Quimperlé, Carhaix, Crozon. Et dans le Nord, nous avons Brest, Landerneau, donc deux permanences à Brest, Landerneau, Morlaix, Lesnevin et Plabennec.
Voilà. Oui, c'est pas mal. Et enfin, d'autres implantations en projet, d'ailleurs, on en parlait hors micro, on en reparlera tout à l'heure. Donc, l'association a été créée pour, j'imagine, d'abord lutter contre le surendettement, c'est ça ? Enfin, l'objet au départ, c'était quoi ?
Oui, tout à fait. C'est la fragilité financière. Donc, aider les gens qui sont très souvent un peu débordés par les problèmes financiers. Donc, nous, c'est vraiment les accompagner, notamment les aider à constituer un dossier de surendettement, analyser leur état réel ou pas de surendettement, les aider à faire un dossier à la Banque de France. Donc, on reviendra peut-être sur la procédure Banque de France. Mais c'est aussi donc anticiper le surendettement et donc on a pour projet vraiment de développer la formation. On a un jeu donc qui est le jeu de la fédération, un jeu de loi, ce qui s'appelle le jeu dilemme, pour apprendre à gérer son budget.
On en parlera aussi
parce
tout à l'heure. Ouais.
Nous, on pense que vraiment faire de la formation dans les lycées professionnels, c'est par là que ça commence. Et il faut tout faire pour éviter justement la sphère du surendettement, parce que nous, on voit tous les jours que ça peut être dramatique.
Et pour avoir une idée des gens concernés, c'est combien de dossiers traités en Bretagne par an
Alors, en Bretagne, là, jusqu'à présent, en 2024, on est à peu près à 1500 dossiers sur toute la Bretagne.
Et c'est une moyenne ou vous diriez que ça augmente
C'est assez stable. C'est assez stable. En tout cas, ça ne diminue pas.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et plus on sera connu, je pense, plus on aura des personnes à venir nous voir.
Oui, puis de toute façon, vous ne pourriez pas traiter un nombre infini de dossiers. C'est fonction des bénévoles.
Voilà, c'est ça. C'est pour ça que les bénévoles, c'est fondamental de les recruter, qu'ils nous rejoignent. Parce que, on a quand même beaucoup de travail et on doit être disponible pour tous les gens qui ont besoin de nous, quoi.
Le surendettement, on va peut-être le définir plus précisément. Vous disiez, voilà, il y a des gens, est-ce qu'on vérifie qu'ils sont surendettés ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire être surendetté, en fait ?
En fait, c'est ne pas pouvoir faire face donc à ces dettes. Hein. Donc les dettes, c'est quoi? C'est les charges courantes. Hein. On voit qu'aujourd'hui, les charges courantes augmentent de façon assez dramatique. Et puis c'est aussi...
Alors c'est quoi par exemple, moi, les charges courantes?
Les factures EDF ou les rappels CAF. Hein. Donc on voit beaucoup de rappels CAF. Quand vous avez un rappel CAF de 3 000 euros... Et que
c'est quoi un rappel CAF? Ça veut dire que... Parce que la CAF, normalement, c'est... C'est plutôt des gens qui nous donnent de l'argent, non?
Oui, mais alors, en fait, si vous voulez, si vous n'avez pas mis tout de suite votre situation à jour et avec retard, donc la CAF vous a versé des allocations qui étaient indues. Ah, elle fait un rappel 3-4 mois après. Et là, quand votre budget est très juste, c'est très, très compliqué de faire face à ce rappel CAF. Mais vous avez aussi les charges d'électricité, notamment l'EDF, le chauffage, l'essence pour aller travailler. Donc, on voit que ces dernières années, les charges courantes ont explosé.
La téléphonie aussi, sans doute.
Voilà, la téléphonie, même les produits alimentaires. Donc, on voit que les charges, c'est quand même assez compliqué en ce moment.
Et le loyer, ça fait partie des charges courantes ou c'est à part?
Alors, le loyer, on voit que les gens, donc la priorité, c'est en général le loyer.
Ah oui, donc contrairement à ce qu'on pourrait...
Garder un toit, ouais. C'est quand même fondamental. Bon, par contre, après, certaines charges, oui, ça dérive. Et puis quand ça commence à dériver, tout dérive. Le loyer va dériver après. Vous savez, c'est l'engrenage du surendettement. Et si vous faites un crédit revolving pour faire face à votre endettement, eh bien, c'est encore plus catastrophique. Parce qu'avec le revolving, vous ne désentêtez pas.
Qu'est-ce que ça veut dire, ouais, le revolving, pour les gens qui ne sauraient pas?
Les revolving, vraiment, qu'il faut éviter, c'est lorsque vous ne vous désendettez pas. C'est-à-dire que le crédit n'est pas amortissable. Chaque mois, vous payez des intérêts, mais vous ne payez pas, vous ne remboursez pas le capital. Donc, vous restez endetté 10 ans, 15 ans. Et là, c'est la sphère du surendettement qui commence.
Oui, parce que ça s'accumule, en fait, les intérêts,
voilà,
c'est
vous,
ça?
Vous ne payez que les intérêts et vous restez endetté.
C'est ce qu'on appelle aussi le crédit renouvelable ou
voilà,
c'est la même
chose? Voilà, le crédit renouvelable et donc les crédits liés aux cartes que vous achetez dans les magasins. Donc le fait qu'ils ne soient pas amortissables, et nous on demande toujours aux personnes de bien vérifier qu'ils arrivent à se désendetter mensuellement, parce que sinon c'est la sphère du surendettement.
Et ça peut monter jusqu'à combien? Enfin, moi,
On a vu des personnes avec 20, 30 000 euros de crédit, des crédits conso.
Ah ouais. Donc c'est par exemple une carte de magasin, alors, on vous met un crédit revolving dessus, enfin, sans que vous réalisiez trop, quoi.
Alors là, vous avez un crédit revolving et puis la personne va contracter un crédit conso chez Cofinoga, chez d'autres banques, et ça va se rajouter. Vous empruntez pour vous désendetter. Et ça, on sait que ça ne marche jamais.
Quand sur sa carte bancaire, on a le droit à un découvert de 500 euros, est-ce que c'est une forme de crédit revolving, par exemple, ça?
Alors, tout ça dépend des offres, hein, parce que bon, l'offre bancaire est quand même assez étoffée. Donc, vous avez des crédits qui sont renouvelables, qui sont liés à des crédits conso derrière. Vous avez après des simples autorisations de découvert sur une carte. Vous avez des crédits à débit différé. Donc, c'est pour ça aussi que nous, on souhaite faire de la formation, parce qu'on sait que les termes bancaires, c'est compliqué, notamment pour les jeunes. Et d'où la volonté de faire de la formation de budget. Bien maîtriser son budget, c'est d'abord comprendre les produits qu'on achète auprès de notre banquier.
Oui, c'est ça. Hein? Et or, ça a été réglementé, je crois, il y a eu des lois, mais c'est jamais satisfaisant.
Écoutez, c'est vrai qu'à un moment, en France, on aurait souhaité qu'il y ait des fichiers positifs. C'est-à-dire qu'on sache, par exemple, quand vous allez contracter un crédit chez Cofinoga, que vous avez tant de crédits ailleurs. Vous avez le fichier positif, comme ça, le banquier...
Que Cofinoga sache que vous aviez, quelles sont les autres dettes qu'on a.
Les autres dettes que vous avez. Mmh. Et ça effectivement, donc, ça n'existe pas.
Ah oui.
Hein, donc, c'est vrai que vous pouvez, sur Floabank ou par Internet, faire des crédits très facilement.
Oui, ça reste encore trop facile.
Ça reste, à mon avis, ça reste pour certaines personnes un peu trop facile.
Et le coût du crédit, il est comment? Enfin, là, il est assez bas encore ou est-ce qu'il a remonté?
Ah, il est remonté hein, ces dernières années. Oui, ça remonte, hein, c'est lié. Oui.
C'est quoi les taux en général?
Alors, si vous voulez, par exemple, quand vous avez un crédit conso, quand vous êtes au-delà de 3 000 euros, le taux peut être tout à fait correct, par exemple 4-5%. Et quand vous descendez en dessous des 3 000 euros, là, tout d'un coup, votre taux de crédit passe entre 15%-16%.
Ah bon, quand on emprunte 2000 euros, c'est ça ?
C'est pas automatique. Par exemple, vous allez faire un crédit dans une banque, n'importe quelle banque, enfin surtout les banques de crédit conso, vous empruntez 5000 euros, par exemple. Et donc, quand vous regardez, sur certaines offres, hein, parce que c'est pas généralisé, sur certaines offres, au-delà, quand vous êtes entre 3000 euros et 5000 euros, vous allez payer, par exemple, 4% d'intérêt, d'accord ? Quand vous allez rembourser et passer en dessous des 3000 euros, quand vous regardez les toutes petites lignes du contrat, eh bien, votre taux change.
Mais pourquoi ça, hein ?
Bah, c'est une offre, hein, après. Donc, il faut, enfin, nous, ce qu'on dit, c'est que vraiment, il faut faire de la formation. Il faut dire aux gens de lire leur crédit, de venir nous voir. On veut bien lire avec eux leurs offres, mais il faut être très, très vigilant. Vous voyez ? Très vigilant. Il y a toujours des petites lignes qu'il faut lire, quoi.
Alors vous, Marie-Annick Lepage, donc vous occupez du Sud Finistère pour créer l'association Créjus. Quels sont les profils des gens dont vous vous occupez, s'il y a un profil ?
Alors en fait, il n'y a pas de profil parce que tout le monde peut être surendetté. Vous savez, ça peut être une maladie, ça peut être un divorce, ça peut être le souhait de quitter le domicile parce qu'il y a des violences familiales. On quitte le domicile, mais il faut un prêt pour aménager avec ses enfants. Et là, ça peut commencer le surendettement. Ça peut être une maladie, ça peut être un chômage, ça peut être
un accident de la vie.
Tout à fait. Et puis ça peut être une personne qui n'arrive pas à boucler son budget parce que bon bah il faut acheter des choses pour ses enfants. Voilà, on n'a pas de profil, il n'y a pas de profil de surendetté. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui peut arriver à chacun d'entre nous.
Oui, c'est ça. En fait, c'est pas que vous parliez des jeunes tout à l'heure. C'est pas spécialement les jeunes, si.
On a aussi aujourd'hui, par exemple, une personne qui rentre dans une maison de retraite. Donc, une maison de retraite, ça coûte cher, et il peut y avoir aussi des problèmes. Hein, pour peu qu'elle soit endettée avant de rentrer en maison de retraite, comment elle fait pour payer sa maison de retraite et pour rembourser son crédit ?
Et oui. Et comment les gens arrivent jusqu'à vous ? Ils viennent vous voir parce qu'ils vous connaissent ou est-ce qu'ils sont prescrits par, je sais pas, des assistantes sociales ?
Oui, en général, c'est des assistantes sociales. Ah ouais. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est multiplier les formations dans les lycées professionnels et autres et nous faire connaître parce qu'on a des solutions, on peut les aider. Hein, donc on les aide à constituer des dossiers Banque de France. Un dossier Banque de France, il faut savoir que c'est une bouffée d'oxygène.
Alors, expliquez-nous les processus. Alors, disons qu'on arrive chez vous, vous regardez en gros les dettes, c'est
ça ? Voilà, on regarde est-ce que vous êtes en situation ou pas de surendettement. Si vous voulez, les seuils sont donnés par la Banque de France.
Et c'est par exemple, c'est quoi alors ? On doit combien en fait ?
Alors tout dépend parce qu'en fait la Banque de France va considérer que vous avez besoin d'une certaine somme pour vivre. Et donc cette somme-là, elle est, je dirais, un peu intouchable. Et au-delà, on va calculer donc quelles sont vos dettes, quelles sont vos charges, et est-ce que si on calcule vos dettes de remboursement de crédit par exemple et vos charges, est-ce que avec ce que vous recevez comme salaire ou comme pension, vous pouvez faire face à vos dettes ?
Et donc ça, on le voit assez rapidement.
Voilà, ouais. Oui.
Et donc si on ne peut pas, qu'est-ce qui se passe ?
Alors si on ne peut pas, donc, nous on remplit un dossier de surendettement avec les personnes, on les aide à remplir. Bon,
c'est difficile à remplir tout seul ?
Non, c'est pas difficile, mais nous on est bien rodés. Donc
bien
en
sûr,
tant que bénévole, ça va beaucoup plus vite. Il y a un certain nombre de pièces à mettre dans le dossier, donc, et puis une lettre aussi, il faut expliquer pourquoi on est arrivé à cette situation et qu'est-ce qu'on va faire dans les mois à venir justement. Pour que ça aille mieux. Hein. Donc, il y a une lettre de motivation quand même à faire.
Oui, en fait, juste parenthèse, les gens qui se sont surendettés parce qu'ils ont acheté à tout va, c'est rare finalement. Enfin, c'est pas vraiment ça le problème, quoi. Hein.
Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui rentrent dans les crédits conso. Ouais. Si vous voulez, hein, qui achète une machine à laver, votre voiture tombe en panne, vous n'avez pas les liquidités, vous refaites un autre crédit, et puis vous avez un autre problème, vous refaites un autre crédit.
Ouais. Enfin, acheter une machine à laver, c'est pas non plus ce qui s'appelle d'être hyper dépensier. Ouais, c'est pas non plus le problème, quoi. C'est pas des gens qui ont acheté des gadgets.
Alors, il y a de tout, hein, après. Je vous dis, il n'y a pas de profil type de la personne en surendettement.
Bon, en tout cas, on fait une lettre de motivation, d'explication.
On remplit son dossier. Le dossier part à la Banque de France. Et donc, la personne reçoit une attestation de dépôt. comme quoi son dossier est bien déposé.
Combien de temps
tout de suite après, 8 jours à 15 jours après. Suite à ça, donc, la Banque de France étudie le dossier, donc ça prend à peu près un mois et demi en moyenne. Hein. Et donc, elle va dire à la personne, est-ce que son dossier est ou non recevable ? Si son dossier est recevable, alors ce qui est intéressant, c'est que les créanciers ne vont plus avoir le droit de poursuivre la personne. D'accord ?
Oui, ça arrête les poursuites.
Voilà, ouais. Ça arrête les poursuites. Son dossier est recevable. Puis la Banque de France va proposer un plan d'apurement. Donc, par exemple, sur 3-4 ans, elle va lisser les dettes et il aura donc une échéance mensuelle et qui va donc lisser tout son endettement sur 3-4 ans ou plus. Hein, s'il y a du crédit immobilier, ça peut aller beaucoup plus loin.
Est-ce qu'il y a des rejets ? Enfin, vous avez un taux de rejet des dossiers
C'est assez rare puisque nous, si vous voulez, on
analyse.
Oui,
les vôtres, ils sont bien faits.
Non, je ne vais pas dire ça, mais on analyse quand même un petit peu avant aussi est-ce que la personne est ou pas en situation de surendettement.
Mm-hmm. Hein donc... Et donc, il y a des fois où vous dites à la personne, mais non, en fait, avec un peu de gestion, vous allez pouvoir retomber sur vos pattes, quoi. Enfin...
Oui, c'est possible aussi. Et puis parfois, la personne aussi a du patrimoine immobilier. Hein, quand on dépose un dossier de surendettement, bah, potentiellement, on peut, la Banque de France peut demander aussi la vente de l'immobilier.
Ah oui, mais ça, par exemple, si c'est sa maison, son patrimoine immobilier, la Banque de France peut dire « vendez votre maison ».
Non, aujourd'hui, la Banque de France fait tout pour sauvegarder donc, l'immobilier familial, ça c'est sûr. Mais après, si vous voulez, c'est la Banque de France... Elle décide de son dossier en fonction de l'endettement. Si l'endettement est très, très important, nous, on ne peut pas toujours garantir qu'il n'y aura aucune mesure sur le patrimoine immobilier. Mmh. Hein, vous voyez, donc aussi, on discute avec la personne et la personne veut nous entendre aussi, veut avoir notre sentiment pour voir s'il est opportun, dans ce cas particulier, de déposer ou pas un dossier de surendettement.
Parce que vous êtes vraiment, comme vous êtes une association, vous êtes réputée neutre, en fait. C'est l'intérêt.
On est,
quoi. Voilà.
Déjà,
vous êtes neutre.
On est bienveillant, parce que ça, c'est ce qu'on demande aux bénévoles. Hein. Je crois que c'est les accueillir, les écouter, et puis essayer de leur donner un conseil. C'est, nous, on est quand même une association spécialiste du surendettement, donc on essaye de leur donner un conseil. Maintenant, c'est jamais nous qui décidons. C'est un choix. C'est vrai que déposer un dossier de surendettement, quand vous avez un patrimoine immobilier, oui, il faut réfléchir.
Parce qu'après, une fois qu'on a son plan d'apurement là, de remboursement des dettes, est-ce que pendant cette période, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de contracter
oui. Voilà, on est FICP.
Un prêt. Hein, FICP.
Donc on est fiché au fichier des interdictions de crédit.
Ok, mais on a quand même le droit de garder sa carte bleue pour payer, etc.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, en général, vous allez avoir une carte reliée à votre compte bancaire, mais une carte à autorisation systématique. Hein, donc, la carte va marcher si vous avez la provision sur le compte. D'accord. Donc, vous n'aurez plus de débit ni de...
Et les chèques, on a le droit de faire des chèques quand même
Les chèques, oui, ça doit dépendre de certains établissements. Après, la banque, effectivement, peut dire, moi, je vous retire votre carte à débit différé. Je vous retire. Ça, je pense que c'est de la politique de la banque. Par contre, vous n'avez pas droit de faire de crédit.
Oui, c'est ça. Les autres organismes de crédit spécialisés savent que vous ne pouvez pas.
Parce que vous êtes fiché FICP.
Okay.
Par contre, si vous voulez, après 1 ou 2 ans, vous pouvez faire un microcrédit social. Et donc, l'association Crésus, avec ses partenaires qui sont Crédit Mutuel de Bretagne et Crédit Agricole, peut présenter un dossier d'une personne qui est en Banque de France, un dossier de microcrédit social à hauteur de maximum 8 000 euros, par exemple pour acheter une voiture.
Ah oui, donc c'est quoi la définition d'un microcrédit social ? C'est quoi ? C'est limité en argent et c'est très, fléché, c'est
Alors,
ça ?
En principe, c'est des personnes qui sont rejetées par le système bancaire, qui n'ont pas pu obtenir de crédit donc, dans leur banque. Et donc le Crédit Mutuel comme le Crédit Agricole ont des services spécifiques pour faire du microcrédit social. Et donc ils vont autoriser une personne qui est en Banque de France, qui est fichée FICP, sous réserve que la personne ait effectivement la capacité de remboursement.
Oui, évidemment. Hein.
Donc il faut que son compte en fin de mois soit, en général, soit pas débiteur et qu'il y ait par exemple 100 euros si l'échéance de son microcrédit va être de 100 euros.
D'accord. Et ça va donc jusqu'à 8 000 euros maximum ?
8000 euros, c'est assez rare, parce que bon, c'est quand même du microcrédit social, mais dans les textes, ça peut aller jusqu'à 8000 euros.
Et c'est pour un but, enfin, un achat bien précis.
Oui, bah oui, les trois quarts du temps, c'est essentiellement pour acheter un véhicule pour aller au travail, ou pour se déplacer, pour déplacer.
Oui, ça peut être quoi d'autre sinon, hein, pas un véhicule.
Alors, par exemple, une personne qui a trouvé un job dans un autre département, elle a besoin de faire son déménagement, elle a un contrat de travail ailleurs, elle peut venir nous voir, donc on sait que c'est un nouveau départ et qu'il faut l'aider. Hein, donc, voilà.
Est-ce que votre rôle, le rôle de l'association Crésus, c'est aussi de... Enfin, vous n'êtes pas des assistants sociaux, c'est pas aussi de flécher les autres aides que, dont la personne n'aurait pas...
Alors, nous, on n'est pas des travailleurs sociaux, hein, donc on est des bénévoles, on n'a pas été formés pour ça. Donc, on oriente les personnes vers des assistantes sociales, vers d'autres associations qui sont plus compétentes que nous dans d'autres domaines. Oui, on fait de l'orientation.
D'accord. Et vos bénévoles, donc, ils ont une formation spécifique, j'imagine ?
Alors non. Non, pas du tout. On a des bénévoles. Alors, effectivement, on a beaucoup d'anciens banquiers.
Hein, ouais, il faut quand même connaître un peu le système.
Mais aussi, on a des gens qui viennent de DF, on a des gens qui viennent de la CAF, on a des gens qui viennent de la Poste, de la SNCF. Donc, on a sur notre site Crésus vraiment beaucoup d'outils de formation.
Et là, on d'auto-formation.
D'auto-formation.
Pour qu'ils se forment
tout seuls, d'accord. Et on les accueille dans nos permanences, on leur explique vraiment comment faire.
On peut assister à une permanence par un autre bénévole plus aguerri, par exemple.
Voilà, c'est ça. Ouais, on est toujours en binôme pour recevoir les personnes.
D'accord, c'est important.
Et donc, les bénévoles qui veulent essayer et voir comment ça se passe, ils viennent deux ou trois fois, ils nous disent c'est OK, je continue ou je ne continue pas. Mais non, il n'y a pas de profil type. On demande juste que les personnes. C'est prioritaire, soit bienveillant.
Oui, hein, oui, il ne s'agit pas d'engueuler les gens sous prétexte qu'ils sont endettés. Quoi.
Non, parce que je pense que... Enfin, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de situations et que c'est généralement extrêmement douloureux pour les personnes.
J'imagine. Vous avez donc des permanences dans le coin, en tout cas, c'est Châtelain, Carré, c'est ça ?
Châtelain, Carré, Crozon, on va une fois par mois. Quimperlé, Quimper, et puis bon... Peut-être Concarneau dans les mois à venir.
Et quels sont vos besoins particuliers en ce moment ?
Eh bien, écoutez, c'est vrai que nous, notre association en Bretagne a commencé en 2006. Donc, nos premiers bénévoles, ils commencent à avoir un petit peu d'âge. Et ils aimeraient bien parfois être soulagés par un petit peu de sang neuf. Notamment, c'est vrai qu'on recherche des bénévoles à Carhaix. Châtelain, il faudrait qu'on renforce aussi. Crozon, c'est pour l'instant, c'est moi qui y vais. Mais on voudrait vraiment recruter sur place aussi des bénévoles. Et donc, ce qu'on veut aussi, nous, c'est que créer aussi une ambiance entre nos bénévoles. Parce qu'il faut que ce soit aussi un plaisir pour nous, si vous voulez, de se retrouver, d'aider les gens. Et c'est important qu'il y ait une bonne ambiance entre les bénévoles de l'association.
Oui, que ce soit une association.
Une vraie association. Hein, même si on ne demande pas beaucoup d'heures à nos bénévoles. Oui. En général, c'est, on va dire en moyenne, 3 heures par semaine.
Oui, c'est pas mal déjà quand même, c'est un engagement.
Déjà, oui.
Ouais. Et vous parliez de la prévention, de l'intervention dans les écoles. Enfin, le jeu, par exemple, ça consiste en quoi, le jeu dilemme ?
Alors en fait, c'est une sorte de jeu de loi, où chacun a son petit budget de départ, et puis il lui arrive des événements tout au cours
de la vie, justement.
De la vie au cours, et puis il faut qu'il ait réussi à gérer son budget. Donc il y a des gagnants, il y a des perdants, il y a des chanceux, il y a des malchanceux. Donc c'est assez ludique. Je pense que ça plaît à un public.
Et ça, vous faites jouer les élèves, par exemple, des écoles, c'est ça ? Quel public ?
Alors, pour l'instant, c'est plutôt des foyers de jeunes travailleurs. Parce que c'est vrai que si on a de face à nous 30 élèves, ce n'est pas possible.
Ouais.
Donc là, ce sera plutôt un support PowerPoint, leur expliquer ce que c'est que le surendettement, ce que c'est le budget, leur présenter, par exemple, des applications de budget sur Internet. Il y a une qui est très performante, c'est Pilote Budget de la Banque de France. Et pour les jeunes, c'est très ludique, on la charge sur son téléphone et c'est très 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 bien fait. Donc déjà, rien que ça, avoir son pilote budget sur son smartphone, c'est déjà très très bien. Moi, j'ai vu à Quimper une personne, elle était jeune, elle avait 22 ans, et donc elle était en larmes, elle était surendettée, elle ne savait pas comment faire. Et puis elle me dit, bah, vous savez, moi, mes parents ne m'ont jamais appris à gérer un budget.
Ben non, aussi bien, ils ne savent pas d'ailleurs.
Et ouais. je trouve que ça fait partie aussi de l'éducation. Il ne faut pas se laisser piéger par l'engrenage des crédits, l'engrenage des factures, parce que ça plombe une vie, quoi. On ne peut pas être serein si on est dans des problèmes, des difficultés financières.
Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que Crésus a des demandes politiques précises, officielles ?
C'est-à-dire
En termes de, justement d'organisation du crédit, de possibilités, pour la loi, quoi. Qu'est-ce que vous voudriez faire évoluer ?
Donc, la fédération Crésus est très active. Bon, nous, on est un petit peu loin, parce que c'est comme d'habitude à Paris que ça se passe.
Oui.
Hein. Mais on a une juriste qui intervient dans les couloirs de l'Assemblée et qui sont interrogées par les sociétés de crédit conso. Donc, Crésus fait valoir, effectivement, ses revendications.
Lesquelles, par exemple ?
Bah écoutez, ils sont intervenus dans les différentes lois sur le crédit conso, sur plus de lisibilité. Après, si vous voulez, nous, on est un peu éloignés de ces dossiers-là. On est moins dans le politique. Nous, on est vraiment des acteurs de terrain.
Bon, ben on mettra les coordonnées en tout cas de Crésus Bretagne et en particulier Sud Finistère sur le site internet de Transistor. Merci beaucoup, Marie-Annick Lepage.
Merci.
À bientôt pour d'autres émissions.
Merci.
Au revoir.